25 au 28 janvier 2024, l'association Écologie au quotidien organisait ses 22e rencontres de 10 intitulées « Agir pour le vivant ». Erdiwa était convié à prendre la parole de quelques intervenants présents lors de ces 4 journées. Bonjour. Et donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Ludovic Simon. Bonjour.
Bonjour.
Ludovic Simon, vous êtes accompagnateur de projet pour la coopérative Oasis. Et pour cela, vous intervenez dans le cadre des rencontres de l'écologie avec un thème abordé aujourd'hui, habitat participatif et écolieux. Et avant tout, Ludovic Simon, comment devient-on accompagnateur de projet ?
Alors, il y a plusieurs chemins pour devenir accompagnateur de projets d'habitat participatif. Ce métier, en fait, il est né parce que on s'est rendu compte que les notaires ou les architectes pouvaient accompagner un groupe sur des aspects particuliers. Mais un projet comme ça, c'est un projet qui est complexe, qui a beaucoup de composantes. Il y a la composante humaine, la composante architecturale, comment un bâtiment, une ferme, comment on va s'en servir, comment on va l'habiter. Il y a aussi des compétences financières, il faut financer tout ça. Et des compétences de vivre ensemble, de gouvernance partagée. Voilà, donc j'ai envie de dire, faut déjà commencer à nourrir une partie de ces compétences pour pouvoir devenir accompagnateur.
Alors, il y a aussi la coopérative Oasis, hein, que l'on peut présenter. Et quelles sont ses actions et ses projets ?
Alors, la coopérative Oasis, en fait, elle porte le projet d'Oasis, qui est un concept qui a été, popularisé, inventé par Pierre Rabhi. Ce projet a été porté par l'association des Colibris à la base. Et puis au bout de quelques années, il y a 5-6 ans, il a été décidé de créer cette coopérative Oasis pour pouvoir financer les projets d'une part, c'est-à-dire qu'on peut apporter un financement complémentaire pour que les projets puissent exister, boucler leur financement, acheter des lieux, voilà. Donc on a financé à peu près 50 projets en 6 ans. Et comment on a cet argent qu'on peut distribuer, c'est avec de la collecte citoyenne. C'est-à-dire qu'on a des citoyens partout de France qui nous prêtent des sommes. Ça peut être des petites sommes, quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros. Des fois, c'est des sommes importantes. Et on collecte à peu près entre 1 et 2 millions d'euros par an qu'on redistribue à des projets sous forme de prêts. Voilà. Ensuite, on a donc un autre métier à la coopérative Oasis, c'est d'accompagner les projets avec des compétences d'expertise technique, financière, juridique, humaine, sur la gouvernance partagée aussi par exemple. Donc ça, c'est notamment mon métier. On est 11 dans l'équipe, dont 6 accompagnateurs et accompagnatrices. Voilà. Et on a un autre métier qui est d'animer le réseau aussi. Parce que maintenant, en fait, des gens qui se reconnaissent dans le mouvement Oasis ou dans le mouvement Habitat Participatif, qui sont deux mouvements avec des couleurs un peu différentes, mais qui œuvrent ensemble avec des finalités et des valeurs communes, et bien dans ce réseau, on recense à peu près 1000 lieux en France. Et nous, on a 400, 500 oasis dont on se sent très très proche. Et voilà, et donc on anime ça en partageant des contenus, en organisant un festival tous les ans qui rassemble plus de 500 personnes.
Il existe donc une extension de cette coopérative Oasis au niveau national ?
Ouais, c'est-à-dire que oui, la coopérative, c'est une structure nationale. Après, on est dans l'équipe, on est répartis dans toute la France pour pouvoir accompagner les projets dans les régions aussi. Voilà, donc moi, je suis basé à Saillant, dans la Drôme, et j'accompagne beaucoup de projets dans la Drôme, l'Ardèche, les Rhône-Alpes. Voilà, après, on a aussi des projets qu'on peut accompagner en visio sur des sujets juridiques, financiers, par exemple, un peu partout.
Quelle est pour vous l'importance de vos actions et à qui s'adresse-t-elle ?
Alors, l'habitat participatif, les oasis, c'est une partie de la réponse pour changer de société. C'est-à-dire que l'idée déjà de mutualiser des espaces communs, de mutualiser du matériel, de vivre ensemble en partageant beaucoup, en partageant des véhicules, déjà c'est quelque chose d'hyper important. Ensuite, il y a la notion de solidarité, prendre soin de nos vieux, prendre soin de nos jeunes, faire ensemble des chantiers participatifs, développer des compétences. Donc c'est aussi ça qui est porté dans ce mouvement. Et puis il y a cette idée aussi un peu de vivant, de retour à la terre. En tout cas, pour beaucoup d'oasis sont situés à la campagne, dans des endroits où on peut aussi avoir un lien à la terre, une souveraineté alimentaire, soit en étant en ayant un potager soi-même et aussi en ayant des liens avec des magasins de producteurs ou des AMAP. Ça répond à un enjeu de société. Nous, en tout cas, on se sent concrètement dans une lutte pour une autre société, quoi.
Vous avez financé des projets au niveau de Saillant. Est-ce que concrètement, vous pourriez nous citer des projets qui ont abouti ?
Alors, par exemple, on peut citer dans la région, hein, Château Pergaud, Habiter, en ce moment, on vient de le... Voilà, parce qu'un projet peut avoir besoin de financement au début de projet, mais aussi en cours de route. Il peut vouloir, je sais pas, poser des panneaux photovoltaïques, agrandir, rénover une grange. Donc, il peut y avoir des besoins qui arrivent aussi une fois que le projet existe déjà. Donc, nous, on a eu la chance de pouvoir financer et accompagner Château Pergaud, qui est à Alex, dans la, voilà, pas loin de Cré. Habiter, Adi, voilà, plusieurs projets. Oasis de Sérendip aussi, un petit peu après Cré. Voilà, donc plusieurs projets comme ça, donc c'est des projets qui viennent à nous avec un besoin. On va évaluer, est-ce que le projet est un peu sérieux, parce que quand même c'est des gens, nous c'est des citoyens qui nous prêtent de l'argent, donc on a envie de pouvoir leur rendre. Donc évidemment on s'assure de quand on prête à un projet, le projet est suffisamment solide pour pouvoir nous rembourser et que nous on puisse rembourser ensuite tous nos prêteurs. Voilà, ce qui nous permet de financer à peu près 12 projets par an.
Alors, on parle d'écolieux aussi, donc ce sont des constructions ou des projets qui ont trait à l'écologie principalement.
Alors, en fait, les termes, que ce soit habitat participatif, oasis, écolieux, écovillage, tout ça, ça dit un peu la même chose, parce que quel que soit le vocable, tous ces projets-là, avec une logique d'habiter ensemble et de mutualiser beaucoup de choses, il y a une vocation écologique qui est plus ou moins forte d'un projet à l'autre. Il y en a, ils sont capables d'aller dans une sobriété très radicale, d'autres ont un besoin de confort plus important. Alors effectivement, quand quelqu'un se sent dans le... On a un manifeste, le manifeste des oasis, qui pose 5 piliers, 5 valeurs communes aux oasis. C'est pas nous qui jugeons, c'est à chaque projet de se reconnaître ou pas. Et dedans, il y a l'idée de souveraineté alimentaire, de construction écologique. Il y a l'idée aussi de sobriété, hein, d'essayer de mettre de la conscience sur nos actes de consommation, de production, pour essayer de tendre vers un bilan carbone plus bas, en fait, hein, et puis un rapport au vivant qui est plus sain. Voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est un truc qui est partagé par une valeur très forte de notre réseau. Ouais.
Vous disiez être 11 sur toute la France. Donc, comment se dispatche cette oasis au travers de la France ? Est-ce qu'il y a des structures telles que la vôtre à Saillant, notamment ?
Alors, déjà, tous les écolieux, on peut les retrouver sur une carte. C'est la carte des oasis et des habitats participatifs. Et là, vous pouvez voir tous les projets. Donc ça montre l'étendue du réseau sur notre territoire. Il faut savoir aussi que ce mouvement, il est européen, il est international. Donc, il y en a aussi plein d'autres. Et nous, notre équipe, elle est au service de ce réseau, de ces projets qui existent déjà, qui ont besoin de soutien, et de ces projets qui veulent naître et qui ont besoin aussi là d'expertise, de financement. Et voilà, donc notre équipe, c'est simplement, on a un directeur général qui a fondé cette coopérative, qui fait du bon boulot et qui recrute les personnes de l'équipe en fonction de leurs compétences. Et puis, avec quand même cette idée que c'est bien qu'on couvre le territoire. Par exemple, les projets qui ont besoin de soutien et qui sont dans la Drôme et l'Ardèche, c'est assez pratique quand j'ai les compétences pour les accompagner, que ce soit moi qui les fasse puisque j'habite à côté. Et du coup, ça réduit les temps de transport, qui nous fait tous gagner du temps, ce qui évidemment va dans le sens des principes qu'on défend d'écologie et de faire attention, de mettre de la conscience sur nos temps de transport aussi, quoi. Voilà, en gros, comment ça se passe.
L'habitat participatif, donc vous incluez aussi peut-être des maisons intergénérationnelles pour à la fois aussi s'occuper de personnes âgées ou qui sont en mobilité réduite notamment, et peut-être aussi les enfants, les adultes. Il y a aussi l'habitat donc, et peut-être les lieux de travail, des ateliers notamment, ça aussi, ça rentre dans les projets, ça c'est une perspective à laquelle vous tenez.
Ouais, tout à fait. Alors le côté, je dirais que les trois quarts des projets qu'on accompagne et qui font partie du réseau ont une dimension intergénérationnelle, c'est-à-dire qu'on va trouver des enfants, des parents et souvent des générations aussi intermédiaires ou voire des anciens. Donc ça, c'est un truc important et tout le monde voit bien que c'est vertueux, que c'est chouette d'avoir des expériences différentes, des rythmes différents et que ça amène de la solidarité, plein de choses, plein de belles choses dans nos projets. Donc voilà, ça c'est un point. Ce qui est intéressant, c'est que il y a une grande diversité dans notre lieu, donc dans notre réseau. On peut avoir des projets aussi montés avec que des anciens. On sait aussi qu'on a des projets, moi je pense au Eco-Hameau du Plessis par exemple, où ils sont en train de de créer un bâtiment dédié aux seniors, avec une intégration de la problématique du vieillissement. Voilà, faut savoir que la moitié des gens qui montrent des oasis ou qui ont envie de vivre en oasis sont des retraités, des jeunes retraités, qui ont encore l'énergie, qui ont aussi, sont libérés un petit peu de cette contrainte financière, parce qu'ils touchent une retraite, donc il y a une forme de... Comme ça, ils peuvent quitter la ville, ils peuvent, pour ceux qui habitent encore en ville, ils peuvent voilà, vivre un nouveau rêve en fait. Voilà, donc intégrer le vieillissement, c'est vraiment un enjeu important dans nos problématiques, dans nos lieux. Alors des fois, quand on récupère une ferme, eh ben, on a les moyens pour l'équiper, PMR, faire tout l'aménagement. Puis des fois, on a des projets où ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas fait ces choix-là. Donc ils sont, l'accessibilité pour des personnes à mobilité réduite, elle sera limitée. Mais elle pourra se faire le jour où des habitants du projet seront concernés. Quoi. Voilà. Donc, je ne vais pas vous dire que tous les oasis sont équipés PMR. Ce ne serait pas vrai.
On peut signifier PMR ?
Oui, c'est personne à mobilité réduite. Donc dès qu'on a besoin d'un fauteuil roulant. Quoi. Ouais.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Il y a cette notion d'habitat participatif, donc on peut imaginer, comme c'est courant, un financement participatif et d'une, mais aussi l'appel de compétences ou de personnes qui désirent aussi proposer leurs services à des projets.
Ouais, alors évidemment, déjà quand on parle d'habitat participatif, le premier niveau de participation auquel on pense, c'est les habitants participent eux-mêmes à leur habitat, à la conception, à la construction, à la rénovation, etc. Ils participent aussi au financement et des fois ils ont besoin d'aide. Donc effectivement, nous on est tout à fait capable de mobiliser des prêts participatifs, d'aider nos collectifs à faire ça, c'est-à-dire qu'ils vont aller s'appuyer sur leur réseau local, leur réseau familial, tous les gens qui... On a la chance en France d'avoir des gens qui n'habitent pas en habitat participatif mais qui soutiennent ce mouvement parce que ce mouvement les inspire, parce qu'ils sont contents d'aller en habitat participatif, passer une semaine ou deux, parce qu'ils ont des amis qui vivent en habitat participatif. Donc ça, c'est un truc qui est précieux. Et sur l'aspect compétences, je sais qu'il y a des projets qui sont par exemple des fermes qui vont accueillir des woofers, donc qui vont monter des chantiers participatifs. Donc évidemment, il y a un truc qui est vertueux, une entraide vertueuse entre ceux qui ont envie de découvrir ce mode de vie et de filer un coup de main, et puis ceux qui sont en train de monter des projets et qui ont besoin qu'on les aide, quoi.
Par rapport à ces compétences, est-ce que de quelle valeur se produisent ces soutiens aux projets ? Est-ce qu'il y a des sommes minimales d'investissement ? Ou alors, est-ce qu'il y a des ordres de grandeur en fonction des projets auxquels vous répondez ?
Alors, quand on fait un financement participatif, après chacun fait un peu ce qu'il veut. Mais c'est vrai qu'en général, on va demander aux gens de prêter entre quelques centaines d'euros et quelques milliers d'euros, quoi. Mais par exemple, moi, je peux vous parler d'un projet. On a fait une école Montessori, dans laquelle je suis pas mal impliqué, qui est dans la Drôme, à Vérone. On a fait un prêt participatif de 200 000 euros auprès de gens du réseau. Et il y a quelques personnes qui ont donné plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui l'ont prêté. Hein. L'idée, c'est qu'on va les rembourser. Ils avaient cette épargne-là et ils étaient prêts à la mettre au service. Et puis d'autres qui ont prêté 3 000, 4 000 euros. Et voilà. Donc après, nous, on disait qu'à partir de 500 euros, c'était OK. Parce qu'après, les autres sommes, des petites sommes, ce serait plus des dons. Et du coup, voilà. Donc, voilà pour donner quelques ordres d'idées. Mais je pense qu'à partir de 500 euros, 100 personnes qui donnent 500 euros, ça fait 50 000 euros. Donc, ça peut aider un projet à démarrer. Voilà.
Il y a donc un étalement de oasis sur l'entière de la France, sur l'ensemble de la France. Est-ce que chaque endroit a ses particularités aussi dans les démarches ou dans les actions autour de cette notion d'éco-citoyenneté ou d'éco-habitat ? Est-ce qu'il y a des différences en fonction des régions ?
Alors, il va peut-être y avoir des différences un peu climatiques. Hein. Par exemple, entre ceux qui montent un projet en Bretagne ou ceux qui montent dans la Drôme, ils vont faire plus attention à l'humidité. Nous, on va faire plus attention à le confort d'été quand on a une canicule. Voilà, donc ça peut influencer ça au niveau de l'habitat et de la conception, la rénovation. Après, sur les montages, je n'ai pas remarqué, moi, de couleur particulière d'une région à l'autre. Globalement, tout le monde essaie de pouvoir financer son projet, tout le monde essaie d'avoir une gouvernance partagée, une gestion des conflits aussi qui soit intelligente, parce qu'on sait que quand on monte un projet comme ça, des fois on ne sera pas d'accord, on s'oblige à se mettre d'accord, avec un collectif qui des fois voilà, des fois on n'a pas le même point de vue. Donc voilà ce que je peux dire.
Et puis il y a les bases légales, administratives auxquelles il faut répondre et s'y conformer également. Donc ça aussi c'est une grosse part du travail.
Alors effectivement, notamment quand on part sur un projet avec des travaux, enfin quand on part, le plus dur c'est quand on fait de la construction neuve, parce que là on doit respecter des normes de construction qui sont très importantes. Donc là c'est bien d'être accompagné par des professionnels, ou alors en tout cas si on auto-construit c'est bien d'avoir le temps et d'être patient, parce que c'est quand même, c'est vrai qu'on a, voilà, c'est très technique comme métier, il y a beaucoup de normes, beaucoup de choses à apprendre. Après, quand on est sur des rénovations, c'est bien de faire bien le boulot, c'est bien d'étudier comment pour avoir un bâtiment pour affecter, voilà, vous parliez tout à l'heure des choix de chauffage, bien choisir sa chaudière, son système de chauffage, que ce soit cohérent avec l'isolation, tout ça, ça demande quand même une forme d'ingénierie qu'on a en interne dans le groupe ou pas. Si on l'a pas, on peut aller la chercher ailleurs. Donc ça, c'est intéressant, ces dynamiques-là. Après, qu'est-ce que je peux dire sur... Non, voilà, c'est... Ouais, déjà, je peux dire ça.
Comment se déroulent justement ces financements ? Est-ce que vous avez une totale autonomie de cette gestion financière, ou alors il y a des organismes qui vous prêtent main forte, notamment comme ici, je crois qu'il y a la NEF. Est-ce qu'il y a deux organismes tels que celui-ci pour vous aider ?
Alors, non, on a notre coopérative est autonome pour gérer la collecte citoyenne qu'elle fait. Et c'est d'ailleurs un des points forts, c'est-à-dire qu'on dit au lieu de laisser votre épargne à la banque, mettez votre épargne à la coopérative Oasis. Il y a des avantages fiscaux à ça. Vous allez soutenir une cause. Vous êtes sûr que votre argent il va être placé dans des écolieux et pas dans des projets un peu flous, on ne sait pas trop, voire même carrément anti-écologiques. Hein. Voilà. Donc du coup, ça c'est un point important. Donc nous, on a toute la compétence en interne. On a quand même bien sûr un commissaire aux comptes, un expert comptable et tout ça pour vérifier qu'on répond à toutes les normes qui vont bien. On est en réseau avec tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui font ça aussi. Donc c'est quand même un sujet qu'on a bétonné et qu'on maîtrise très bien.
C'est un modèle économique que vous avez créé, ou alors avec peut-être des adaptations ?
Ouais, tout à fait. On a créé un modèle économique original qui consiste à prêter de l'argent au projet et à les accompagner aussi en même temps. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir finalement une coopérative. Alors une coopérative, je rappelle, c'est les sociétaires, les gens qui font partie de notre coopérative sont eux-mêmes ceux qui vont demain de nous demander des prêts. Voilà, donc on est bien au service de ce réseau, on n'est pas un bureau d'études un peu externe qui fait du profit sur ce mouvement, quoi, clairement pas. D'ailleurs, aujourd'hui, on est à l'avant-poste là, pour cette interview, et l'avant-poste c'est un projet qu'on a cofinancé aussi. Donc c'est vrai qu'ils ont eu des emprunts bancaires avec la NEF, et je crois, je ne sais plus exactement quelle banque d'ailleurs, et sont venus en complément la coopérative Oasis, Village Vivant, qui est une autre structure un peu similaire à la nôtre, qui finance aussi des projets qui ont du sens, et eux, ils sont basés à Cré. Voilà, donc voilà un peu comment on s'organise pour honorer ces prêts qui nous sont faits et qu'on redistribue.
Alors aujourd'hui, il y a des projections de films courts. Qu'est-ce qu'on y trouvera ? Qu'est-ce qu'on va y découvrir ? Est-ce que c'est aussi une argumentation sur votre action ?
Alors l'idée, c'est... les projections, c'est un peu un prétexte à la discussion. C'est-à-dire qu'on va... Là, on a 2 heures ensemble. On va projeter 15-20 minutes de films, en fait. Hein. Il y aura 4-5 films. 3-4 films, c'est ça, de 4-5 minutes chacun. Et l'idée, c'est de montrer des lieux différents. Parce qu'en fait, voilà. Et là, on va voir. Et puis après, on va discuter autour de ça. Et donc là, ça va dépendre des personnes. Moi, je ne sais pas si les personnes qui vont venir sont des curieux ou curieuses qui commencent à s'intéresser tout juste à ce sujet, ou si c'est des gens qui sont à fond, qui ont déjà vécu dans des lieux comme ça, qui ont envie d'en créer un. Enfin voilà, donc là moi je suis prêt à accueillir ce qui va se passer. Et ces petits films sont des prétextes pour discuter, quoi. Voilà, il y en a un par exemple qui a une dimension agricole. Est-ce que vous voulez une dimension agricole dans vos projets ? Il y en a un, ils ont une dimension culturelle. Voilà, donc on va voir. On aura aussi d'ailleurs, on va parler d'un projet qui est plutôt urbain, où ce sont des dames âgés, plus de 60 ans, qui ont monté le projet. Et ils se sont fait une... Ils ne voulaient pas aller en maison de retraite, ils ne voulaient pas rester tout seuls dans leur maison individuelle. Donc ils ont créé un projet d'habitat participatif pour vieux, et là, exclusivement féminin. Parce qu'on sait que les femmes ayant souvent moins de salaire, enfin statistiquement très clairement moins de salaire que les hommes, elles ont aussi une retraite plus faible. Et en plus, j'ai appris là qu'à 80 ans, les femmes sont 7 fois plus nombreuses que les hommes, dans la génération, enfin, voilà, les Français ou Françaises qui ont plus de 80 ans aujourd'hui. Donc c'était important aussi d'avoir une réponse voilà, pour ce public-là. Voilà, donc on va parler de tout ça.
En ce moment, avec la crise économique, est-ce qu'il y a des difficultés pour ces projets au niveau des matériaux notamment, mais aussi du coût excessif, l'énergie? Est-ce que c'est une course en ce moment?
Ouais. En fait, effectivement, le fait qu'il y a deux problèmes principaux en ce moment, les matériaux coûtent plus cher. Et les prêts bancaires, les taux ont augmenté de manière considérable. Il y a encore 3-4 ans, on empruntait à 1 ou 1,5%. Et maintenant, on emprunte à 4 ou 5%. Donc clairement, ça a un énorme impact sur les projets. Et ça fait que j'ai beaucoup de mes confrères ou consoeurs qui n'arrivent plus à monter d'opérations. Parce qu'en gros, tout simplement, les gens n'ont plus assez d'argent pour payer des loyers qui sont devenus trop hauts ou avoir des apports financiers qui soient à la hauteur.
Est-ce que ça vous obligerait peut-être à revoir encore ou peut-être adapter ce modèle économique, de trouver d'autres ressources ?
Oui, on se pose toujours la question comment mieux soutenir. On essaie de faire ce qu'on peut. On remarque quand même que les pouvoirs publics ne nous soutiennent pas énormément. Certains oui, mais on n'a pas non plus... Alors que ça répond à plein d'enjeux autour du vieillissement, de l'écologie, de la mutualisation, même la densification de l'habitat. Et pourtant, on n'a pas de soutien majeur, on va dire, des pouvoirs publics. Donc ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui pourra changer un jour, on espère.
Il y a aussi l'aspect rural. Hein. Nous sommes dans un lieu rural en campagne. Est-ce qu'il y a aussi ce même type d'action dans les villes ?
Oui, tout à fait. Le mouvement, en gros, il y a à peu près autant d'écolieux ou d'habitats participatifs à la campagne que... Alors c'est vrai qu'à la campagne, ils ne se reconnaissent plus sous le terme oasis. Et en ville, on parle souvent d'habitat participatif, mais la distinction n'est pas... Donc oui, il y a beaucoup de projets comme ça qui se font en ville aussi. Après, vous parliez tout à l'heure d'activité économique. Pour qu'il y ait une activité économique, il faut de la place, pour qu'il y ait des ateliers, qu'il y ait, un espace de transformation alimentaire ou de la terre à cultiver. Donc quand il y a de l'activité économique, souvent, c'est plus à la campagne.
Est-ce qu'il y a donc une visibilité sur Internet pour découvrir aussi cette coopérative Oasis ?
Oui, alors vous pouvez retrouver des informations sur la coopérative Oasis sur notre site internet, donc www.coopérative-oasis.org. J'ajoute aussi que c'est possible de soulever de l'épargne, de pouvoir participer à la collecte et contribuer à soutenir ce mouvement des écolieux, sachant que vous récupérez votre argent un jour. Et aussi, pour ceux que ça intéresserait, on propose une pépinière Oasis. La pépinière Oasis, c'est un espace de formation, d'immersion, pour monter son projet et être en réseau avec d'autres porteurs de projets.
Et donc ça, c'est rendez-vous, on peut les découvrir sur le site pour s'en informer. Est-ce que ces vidéos que vous proposez, du moins, sont-elles visibles sur ce site ou alors est-ce qu'il y a une chaîne YouTube pour propager un peu vos actions ?
Mais oui, il y a une chaîne YouTube Coopérative Oasis qui notamment diffuse beaucoup de films de 3 minutes qui montrent différents écolieux. Ça s'appelle Capture les Oasis, je vous invite à aller regarder, ça vous permet de voir c'est quoi l'écolieu qui vous inspire le plus.
Ludovic Simon, merci en tout cas de nous avoir donné du temps pour ces habitats participatifs et écolieux, et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
This is a public information transmission from the Department for Frozen Lakes and Ponds. If you see a frozen lake or pond, it is safe to walk across it. Ice sheets cannot cave in without warning. If you hear a crack, keep walking. Bystanders should not shout reassurance without endangering themselves.
Accidents with ice are okay.
Only a fool would ignore this. Walking around the frozen lake or pond, there are tracks. Old cars, bedsteads, weeds, big depths. It's the perfect place for an accident.
If the ice cracks, jump up and down.
If the ice breaks, walk your way to the other side, stamping on the ice in front of you on the way.
Icy water is good for you.
The Department for Frozen Lakes and Ponds encourages walking on frozen lakes and ponds, jumping on the ice and throwing rocks on the ice as people walk across the frozen lake or pond.
Icy water is good for you.
If you see someone in a frozen lake or pond, you should jump in. Icy water is good for you. Accidents with ice are okay.
Accidents with ice are okay.
If the ice cracks, jump up and down. If you see a frozen lake or pond, it is safe to walk across it. Ice sheets cannot cave in without warning. If you hear a crack, keep walking.
If the ice cracks, jump up and down.
Bystanders should not shout reassurance without endangering themselves.
Icy water is good for you.
Only a fool would ignore this. Walking around the frozen lake or pond, there are tracks. Old cars, wet stents, weeds, hidden depths. It's the perfect place for an accident.
Icy water is good for you.
If the ice breaks, walk your way to the other side, stamping on the ice in front of you on the way.
Accidents with ice are okay.
The Department for Frozen Lakes and Ponds encourages walking on frozen lakes and ponds, jumping on the ice and throwing rocks on the ice as people walk across the frozen lake or pond.
Icy water is good for you.
If you see someone in a frozen lake or pond, you should jump in. Icy water is good for you. Accidents with ice are okay. If the ice cracks, jump up and down.
Ice sheets cannot cave in without warning. If you hear a crack, keep walking.
Icy water is good for you.
Accidents with ice are okay. Icy water is good for you.
This is a public information transmission from the Department for Frozen Lakes and Ponds.
I'll be back.